en Jean 19, 30, sur la croix, il a utilisé une parole de marchand qui signifiait « La dette est entièrement payée. » La dette est entièrement payée. Si quelqu'un achetait quelque chose lorsqu'il faisait le dernier paiement, le commerçant lui donnait un reçu qui lisait « Tetelestai » en grec. Cela signifiait « La dette est entièrement payée. » Jésus a entièrement payé la dette du péché quand il est mort sur la croix. Nous devions une dette que nous ne pouvions pas payer. Selon la parabole qu'on trouve en Matthieu 18, il a payé une dette qu'il ne devait pas. Nous devions une dette que nous ne pouvions pas payer, et lui, il a payé une dette qu'il ne devait pas payer. Comme sacrifice suprême, nous lisons en Hébreux 10, 11 à 12, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert, lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Jésus était à la fois le prêtre officiant et le sacrifice lui-même. Les cinq principales offrandes sous la loi de Moïse sont expliquées dans le livre de Lévitique, le premier 16 chapitres, et doivent être étudiées en relation avec le livre de Hébreux. Chacun est une pose différente de Jésus sur la croix. Jésus a accompli la loi. Jésus disait, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Qui comprenait tous ces types de ces ombres à venir. En Hébreux 8, versets 4 à 5, « S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Puisque là sont ceux qui présente des offrandes selon la loi, lesquelles célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soit lui fut-il de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Encore, je lis de Hébreux 9 à 11. C'est une figure pour le temps actuel. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et encore en Hébreux 10, verset 1, « En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Donc, dans les trois versets que nous avons vus, le passage que nous avons vu, ça parle d'image et ombre des choses célestes. C'est une figure pour le temps actuel. En effet, la loi possède une ombre et des biens à venir. Donc, tout ce qu'on trouve dans le livre de Lévitique, dans ce chapitre qui parle de sacrifices, les différents sacrifices que les enfants d'Israël devraient faire, ils sont tous dans les choses de figure pour le temps actuel. Et c'est une ombre des choses de bien à venir. Le système lévitique était une galerie d'images du Sauveur à venir. En disant « tout est accompli », Jésus disait que toutes les images de lui dans le mobilier du tabernacle, le ministère sacerdotal et le système sacrificiel étaient complètement accomplis. Quand Jésus disait que tout est accompli, et toutes ces choses, quand nous voyons à travers de ces pages du livre de Lévitique, tout est accompli sur la croix, quand Jésus est mort sur la croix. Parmi ceux-ci, nous nous concentrons sur le sacrifice. Jésus était à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Comme je l'ai dit, les cinq principales offrandes sous la loi de Moïse sont expliquées dans le livre de Lévitique. Dans le premier 16 chapitres, nous pouvons voir cela. Et doivent être étudiées en relation avec le livre de Hébreux. Je pense qu'il faut garder les deux livres ouverts pour comprendre ce qu'il dit l'auteur de Hébreux et aussi Moïse dans le livre de Lévitique. Chacune est une facette différente de Jésus sur la croix. Comme les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il fait un portrait de Jésus d'une manière différente et on peut voir ses sacrifices aussi. À travers de ce sacrifice, on peut voir le Seigneur Jésus dans une facette différente. Donc aujourd'hui, nous allons concentrer sur le premier sacrifice qu'il parle, c'est-à-dire sur l'Holocauste. La Bible dit que Christ est notre Holocauste. Christ est notre Holocauste. Tout d'abord, nous devrions comprendre le sens de ce mot aujourd'hui. Et si vous allez demander dans la rue, qu'est-ce que c'est un holocauste? Vous allez certainement avoir une réponse très différente, que ça va nous étonner, les chrétiens. Tout d'abord, nous devrions comprendre le sens de ce mot aujourd'hui. Les mots ont des connotations. Bien sûr, j'ai vérifié dans le dictionnaire et voici ce que j'ai trouvé. En latin, holocaustum, du grec holocaustos, de holos entier et costos brûlé, c'est-à-dire une offrande qui est entièrement brûlée. Dans l'ancien Israël, le sacrifice religieux où la victime, un animal, était entièrement consumé par le feu, la victime est ainsi sacrifiée. C'est le dictionnaire qui nous donne ce sens. Deuxièmement, sacrifice sanglant exécuté dans un but religieux. Et après, la connotation d'aujourd'hui, la connotation actuelle, c'est l'ensemble des persécutions, des sévices et des exterminations. Donc, les Juifs furent victimes de la part des nazis entre 1939 et 1945. L'Holocauste fut emprunté à la Bible par des historiens américains, certainement du fait de son étymologie grecque, brûlé en entier, afin de qualifier des après-guerre le massacre de tout un peuple dans les fours crématoires. Voyons maintenant ce que la Bible en dit. Ce n'est pas la première fois qu'on l'entend parler de l'Holocauste dans les Écritures. Le sacrifice d'Abel avait déjà le caractère d'un holocauste. Et il a ainsi reçu le témoignage d'être juste, bien qu'il soit pourtant pécheur par nature. On ne parle pas de péché d'Abel par ses œuvres, mais Abel, il était pécheur par naissance, parce qu'il est né d'Adam, qui est devenu pécheur. Dieu a rendu témoignage à ses dons, c'est-à-dire à sa valeur de son sacrifice. On trouve en Hébreux 11:4. Noé aussi a offert un holocauste après le déluge. L'Éternel a senti une bonne odeur et il l'a dit en son cœur, je ne maudirai plus de nouveau le sol car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Genèse 8:21. Job aussi a offert des holocaustes pour ses fils. Car il disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. Job 1:5. Donc, l'Holocauste, ce n'est pas seulement dans le livre de Lévitique qu'on trouve pour la première fois. C'est déjà mentionné dans la parole, dans l'Ancien Testament. Et maintenant, nous allons voir ce passage qu'on trouve dans le livre de Lévitique Prenez avec moi dans le livre de Lévitique, chapitre 1. Lévitique, chapitre 1. Nous allons voir quelques passages pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce sacrifice qu'on appelle holocauste, le sacrifice entièrement brûlé. Lévitique 1, on va lire le premier, 9 premiers versets. Lévitique 1, le 9 premiers versets. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et le sacrificateur, fils d'Aaron, offriront le sang, ils répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 6, il dépouillera l'holocauste, il le coupera par morceaux. Le fils du sacrificateur Aaron mettra du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Le sacrificateur fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec l'eau les entrailles et les jambes. Et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est des choses assez tristes et ce n'est pas beau à voir. Et je ne sais pas combien d'entre nous avons osé lire le livre de Lévitique avec une certaine facilité. C'est difficile à comprendre, oui, mais ça parle des choses que nous ne voudrions pas voir. Mais le Seigneur Jésus n'était pas beau à voir quand il est mort sur la croix. Je ne sais pas, on arrive à voir le Seigneur Jésus dans le sacrifice de cet animal qui symbolise exactement ce qui est passé pour le Seigneur. Regardez encore en Lévitique 6. Lévitique 6, on va lire à partir de verset 8 jusqu'à 13. Lévitique 6, 8 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils. » Et dit, « Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. » Vous avez remarqué? C'est un sacrifice qui devrait brûler toute la nuit jusqu'à l'aube, jusqu'à le lever du matin. Toute la nuit. Le sacrificateur, verset 10, le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter le cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du feu, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne l'éteindra point. Donc, c'est un sacrifice qui était fait en continuité. Le feu brûlait continuellement. C'est pendant cette catastrophe qu'on a eue dernièrement à cause de le COVID, hein, dans certaines, surtout en Inde, on disait que le feu de crémation ne s'éteignait pas, se brûlait nuit et jour. quelle image affreuse. Mais ici, nous voyons que le sacrifice, l'holocauste, le feu n'éteindra point. Il brûlera matin et jour et nuit. Nous allons encore lire un passage en Lévitique 8, 18 à 21. Lévitique 8, 18 à 21. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgera et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux, il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec l'eau les entrailles et les jambes. Et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Nous voyons dans ces trois passages que c'est l'Éternel qui a ordonné à faire ainsi. Ça vient de l'Éternel. Et ce que nous trouvons de cette macabre rite, si on peut appeler ainsi, c'était une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui s'est passé en calvaire, les gens ont dit qu'ils ont tourné leur regard, ils ne peuvent plus fixer leur regard, ce qui s'est passé sur le mont de calvaire. Mais c'était une agréable odeur à l'Éternel. C'était une agréable odeur à l'Éternel. Ce sacrifice se concentrait sur la perfection de Dieu, exprimait l'adoration, la dévotion, l'engagement et l'abandon complet à Dieu. On voit l'adoration, on voit la dévotion, l'engagement et l'abandon complet à Dieu. Rien qui va rester de ce sacrifice. Tout devrait être brûlé sur l'autel. Il ne restera rien du tout le matin. Un taureau ou un bélier ou un oiseau, colombe ou jeune pigeon, était accepté. Vous savez, l'adoration, ce n'est pas uniquement pour les riches. Un riche, il peut certainement donner un taureau ou un bélier, mais les pauvres, il peut apporter un pigeon. Ce que les parents de Jésus, ils sont amenés, élevés par le moyen. Ils ont pu apporter simplement un pigeon, un jeune pigeon. La mort de l'animal caractérise la mort du Christ. L'effusion de sang indique l'expiation de fumée ascendante et caractérise la résurrection. Le sacrifice brûlé est parfois appelé l'offrande ascendante, parce que le mot traduit par offrande brûlée est hola et signifie ce qui monte. C'est ça le mot holocauste. La plupart des lecteurs croyants savent probablement que l'offrande dans le livre de Lévitique sont des types ou des images présentées par l'Esprit Saint. Et la personne de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, les résultats de cette œuvre en leur faveur, les amenant à rendre grâce à Dieu. Mais quelqu'un dira peut-être, considérer ces offrandes de Lévitique de cette manière ne serait pas un fruit d'imagination de l'homme. Le Nouveau Testament répond à une telle objection par les paroles du Seigneur Jésus lui-même et par les paroles inspirées d'un apôtre. Nous apprenons que ces offrandes de l'Ancien Testament sont bien, en effet, des types du Sauveur et de son œuvre. Rappelons d'abord le passage de Luc 24, où le Seigneur Jésus, s'adressant aux deux disciples sur le chemin de Emmaüs, leur dit, « Aux gens sans intelligence, et lent de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. Ne fallait-il pas que Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qu'il regarde. » Vous voyez, Jésus-Christ lui-même, il a dit, vous ne comprenez pas tout ce qui était écrit par rapport à moi dans les livres de la loi, par des prophètes. l'expression par Moïse et par tous les prophètes comprend tout l'Ancien Testament. Commençant par Moïse, désigne les cinq livres qu'on appelle le Pentateuque, qu'il a écrit, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Par tous les prophètes, le Seigneur expliquait aux disciples, dans toutes les Écritures, celles de l'Ancien Testament, les choses qui le concernent. Avons-nous lu le livre de Lévitique et appris les choses qui regardent le Seigneur Jésus? Ou bien avons-nous commencé à lire ici ou là, à travers de la Bible, sans nous arrêter sur le Lévitique, pensant qu'il s'agit seulement d'un livre de convenances et de cérémonies juives, qu'il présente un rituel sans réel intérêt pour les chrétiens. Ce passage de Luc 24 montre clairement que le Seigneur est présenté dans toutes les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu et est-il pour enseigner. Dans le même chapitre, nous lisons un peu plus loin, ce sont ici, dans le même chapitre de Luc 24, hein, ce sont ici les paroles que je vous ai dit, que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes ces choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures, et leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que Christ souffrit, et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour. Oh, quel merveilleux exposé de ces deux disciples du Seigneur ont entendu sur la base de l'Écriture de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, non seulement les 10 commandements, mais ensemble de 5 premiers livres de la Bible, les prophètes et les psaumes. De même pour nous, combien ce livre de Lévitique prend de la valeur quand nous réalisons que ce n'est pas seulement un rituel juif, mais qu'il contient des choses précieuses touchant le Seigneur Jésus lui-même. Chacun de ces sacrifices présente une image de Seigneur Jésus dans leur personne ou dans son œuvre. Tout devient du plus haut intérêt. En effet, c'est une vraie grâce. Si Dieu nous enseigne de cette manière, en se servant de types ou des images, nos pauvres esprits si restreints ne peuvent pas appréhender en une fois la gloire de la personne du Seigneur Jésus ou la valeur infinie de son œuvre. Mais ses disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient avec Jésus-Christ. Ils ont vu beaucoup de choses, mais ils n'ont rien compris. Nous aussi, nous pouvons lire la Bible pendant des années, être dans une église, mais ne pas comprendre ce qui concerne les choses qui étaient dites dans la Bible qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. Le but de Dieu est de nous rendre capables de considérer successivement différents aspects. Ainsi, après avoir considéré un type, nous en découvrons un autre qui présente un aspect différent. Puis, en les considérant ensemble, nos cœurs sont remplis d'émerveillement, d'adoration et de louange. Nous apprenons à discerner d'une manière beaucoup plus détaillée les gloires de l'antitype. Maintenant aussi, nous regardons ces sacrifices, cet holocauste plus près. Et ce que nous voyons ici, que le Seigneur Jésus correspondait à toutes les qualifications qui qualifiaient ce sacrifice. Il avait toutes les qualifications. Jésus a accompli tout ce que l'Holocauste sous le système de Lévi devrait être. Premièrement, dans le passage que nous avons lu en Lévitique, hein, ça devrait être un mâle. Le sacrifice, ça devrait être un mâle. Jésus-Christ était un homme. Et Lévitique, il dit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Un mâle sans défaut. Et Jésus-Christ, dans son essence, ce qui est écrit en Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. l'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Deuxièmement, nous voyons qu'il était sans défaut. Hein? Et le sacrifice devrait être un mâle et sans défaut. Et parlant de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre dit dans son premier épître, chapitre 1, 19, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a vécu 33 années sur cette terre, il était entouré tout le temps par la foule, par les gens, et tout le monde l'observait, mais il était sans défaut. Il était sans défaut et sans tâche. Et en Jésus, il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de péché. L'apôtre Jean, dans son premier épître, chapitre 3, verset 5, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Il n'y a point en lui de péché. Il est venu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. 1 Jean 3, 5. Pas seulement il n'y avait pas le péché en lui, il ne connaissait pas le péché. Il ne connaissait pas le péché. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous étions sans la justice de Dieu, nous ne connaissions pas la justice de Dieu. Mais lui, il ne connaissait pas le péché. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Après, quand il a vécu sur cette terre, il n'a jamais commis le péché. Il n'a pas péché. 1 Pierre 2, 22, « Lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il était sans péché. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il était tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Vous voyez la sainteté de Christ. Tout à l'heure, nous avons parlé, ce matinée, nous avons beaucoup parlé de la sainteté de Christ. Dieu est esprit. Sans la sainteté, personne ne peut voir Dieu. Et pour voir Dieu, comment on peut voir Dieu? Si nous ne sommes pas saints, si nous n'avons pas la sainteté, on ne peut pas voir Dieu. Et après, nous voyons que dans cet holocauste, c'est une offrande qui est volontaire, c'est un sacrifice qui est volontaire. Et Jésus-Christ s'est offert volontairement. Jésus-Christ s'est offert volontairement. Et nous voyons dans l'évangile, le lendemain, il vit Jésus, Jean-Baptiste, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, il est venu lui-même, de lui-même, personne ne l'a poussé pour venir devant. Il est venu de lui-même. Il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et encore, avant sa crucifixion, Jésus, il dit, puis il alla, c'est dans le jardin de Gethsémané, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, leur reproche est le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par des anciens du peuple. Et ils n'ont pas venu, ils sont venus pour attraper Jésus, mais Jésus savait que l'heure est venue. Il s'est levé lui-même, il est parti vers ceux qui venaient lui prendre. Il s'est offert volontairement. Regardez ce que Jésus dit en Jean 10, 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de le reprendre. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me ôte, ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc c'est un sacrifice volontaire. Jésus il a lui-même offert comme sacrifice, comme cet holocauste. Après, nous voyons que son offrande était une substitution. Celui qui offrait l'holocauste devait mettre sa main sur la tête de l'holocauste et il sera accepté qu'il fasse expiation pour lui. Il posera, Lévitique 1, 4, il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Pourquoi cet holocauste? Parce que si quelqu'un qui a commis un péché, il devrait amener un animal, ce n'était pas facile parce qu'il devrait amener cet animal, pas mort, mais vivant. Il marche avec cet animal. Ce n'est pas le prêtre qui devrait tuer cet animal. C'est lui-même, il égorgera cet animal. Ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? Celui qui, pour le sacrificateur, celui qui amène ce sacrifice. Mais il savait que c'était un sacrifice de substitution. C'est-à-dire, il pose sa main sur cet animal innocent. Il y a un transfert de ses péchés sur la tête de cet animal. L'animal doit mourir à cause de la péché de cet homme. Il s'appuya, comme le mot dit, sur sa tête comme pour dire « Je prends cette victime innocente pour être mon substitut. Je verse tout mon poids sur son innocence. » La mort de Jésus était une substitution. Nous nous appuyons sur lui. Regardez en Romains 3, 23 à 26. Je vais lire pour vous. Hein. On n'a pas beaucoup de temps. Romains 3, 23 à 26. Car tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui est à la foi en Jésus. Et après, dans ce sacrifice, nous voyons une chose. Lévitique 1, 5, nous lisons, « Il égorgera le veau devant l'Éternel. » Il n'a pas dit qu'il va égorger devant le peuple, devant le prêtre, mais il égorgera le veau, cet animal, devant l'Éternel. Le Seigneur, il est en train de voir ce qui se passe. Cet acte de substitution, cet acte de rédemption, par le sang, par l'aspersion du sang, il égorgera le veau devant l'Éternel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. L'Éternel, il est en train de regarder ce qui se passe. Nous voyons que le Père, il a, à un moment donné, il a tourné son regard. Quand le péché du monde entier était posé sur son épaule, il a tourné son regard. Il n'a pas pu voir son Fils dans la forme de péché, car il était saint. Mais l'Éternel, il égorgera le veau devant l'Éternel. Après, regardez ce qui se passe, Lévitique 1, 13 à 14, il lavera avec l'eau des entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout, et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Il n'y avait rien de physique. Ce n'est pas l'odeur de chair qui brûlait. Mais c'est un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande de l'Éternel était un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou des pigeons, ou des jeunes pigeons. Le verset 17 de Lévitique 1, il déchirera, si c'est un jeune pigeon, il déchirera les ailes sans le détacher, le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Mais tout ça, ça peut être très violent pour nous. Nous vivons dans une époque où nous parlons de violence, hein. Quand c'est écrit dans la Bible, nous disons que c'est très violent toutes ces choses. Comme nous considérons la Sainte Écriture, ne devrait pas. Mais Dieu l'a rien caché. Dieu l'a rien caché. Nous tolérons la violence sur la télé, sur le film. Et quand j'étais jeune, quand je lisais ce livre de Lévitique, je trouvais que le sang, il y avait du sang partout. Du sang partout. Ce n'est pas facile à lire. Mais aujourd'hui, ça ne nous fait rien du tout de voir le sang sur l'écran. Ça ne nous fait rien du tout pour voir le sang. Mais pourtant, le Seigneur, il a mis le sang dans le corps. Il ne devrait pas être vu normalement. Quand Caïn, il a tué son frère Abel, la Bible dit que la terre, elle a avalé le sang de son frère. Mais le sang, normalement, ne devrait pas être vu. Mais ça ne nous dit rien du tout quand nous regardons le sang dans les écrans, partout. Il y a la violence partout. Oui, il y avait des violences. Il y avait des violences dans tout ce qui est marqué. Mais vous regardez les violences qui étaient là sur la croix du Calvaire, sur le mont de Golgotha, les violences, les terribles violences sur la croix du Calvaire. Ce sont des choses, de l'ombre des choses à venir. Ce sont des types. Et quand nous regardons ces images et pensons à cela, vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» C'est dans cette situation, le Seigneur, il crie, « mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Rien de moins que la mort ne pouvait satisfaire les revendications de l'autel. Selon la loi de Moïse, celui qui offrait le sacrifice tuait l'animal, sauf avec les oiseaux, et le prêtre attrapait le sang dans une bassine et l'aspergeait sur le côté de l'autel. C'est le sacrificateur qui devrait tuer l'animal, mais le prêtre vient ramasser le sang dans une bassine pour asperger le sang sur le côté de l'autel. L'animal a été démembré et ses parties lavées. Ensuite, tout cela, sauf la peau, a été posé dans un ordre sur le bois et brûlé. La transaction à l'autel n'était pas entre celui qui offrait le sacrifice et sa conscience, l'offrande et la nation, ni même l'offrande et le prêtre, c'était entre l'offrande et le Seigneur. C'était entre l'offrande et le Seigneur. Aujourd'hui, comme alors, le salaire du péché est la mort. Rien qui est changé. Le salaire du péché est la mort. Depuis Lévitique jusqu'à aujourd'hui, le salaire du péché est la mort. Rien qui change. Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, 3. Il est mort devant le Seigneur. Il s'est adressé à Dieu 3 fois depuis la croix. Il est mort devant le Seigneur. Il a été tué vers le nord. En ce qui concerne l'autel, dans le cas d'une brebis ou d'une chèvre, l'animal devrait être tué vers le nord devant le Seigneur. Vers le nord de l'autel devant le Seigneur. Il dit que, Lévitique 1, 11, il l'égorgera au côté septentrional, c'est-à-dire le nord de l'autel, devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Cela signifie, sur le côté nord de l'autel, et dans les autres endroits, Lévitique 4, 24 et 4, 29, parle d'un lieu qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Dans le verset 33 de chapitre 4, nous lisons, il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. C'est dans le lieu où on égorge l'holocauste qui sera égorgé les victimes par le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. Bien que ce ne soit peut-être qu'une question de commodité, on ignore pourquoi c'était le nord, puisqu'il y avait plus de place dans ce côté de l'autel, il est intéressant de noter que le site de la crucifixion de Jésus, ce colline de Calvaire, était au nord de la ville de Jérusalem et du temple avec son autel. Ce n'est pas par hasard. Il avait son sang aspergé sur l'autel. 1 Pierre 1, 2 dit et qu'il participe, parlant des chrétiens, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Après, nous voyons que Jésus-Christ, il était entièrement consumé. Il était entièrement consumé. Le point principal de l'offrande brûlée est qu'elle était complètement consumée. Aucune part n'a été remise à l'adorateur ou celui qui offre ce sacrifice. Comme pour d'autres sacrifices, dans les autres sacrifices, il peut prendre une partie, l'adorateur, l'offrande, et une partie, ça va appartenir le lévite, le prêtre, le prêtrise. Mais ici, tout devrait être brûlé. On appelait donc parfois une offrande brûlée entièrement. Regardez comment le Seigneur utilise ses pensées en Marc 12, 33. Et que l'aimé de tout son cœur, de toute sa pensée et toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Vous voyez la comparaison? L'homme, il vient poser la question, quel est le plus grand commandement? C'est-à-dire, aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Oui, d'accord? Et il dit que c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est-à-dire, les holocaustes sont entièrement, c'est pas en partie, mais entièrement brûlé, entièrement. Donc le Seigneur dit que tu devrais aimer entièrement, pas en partie, pas en pourcentage. Bien que le corps de Christ n'ait pas été brûlé sur la croix, il a accompli ce type parce qu'il était complètement consumé dans la souffrance. Il ne s'est pas contenté de nous donner un œil ou un membre. Il ne s'est pas contenté de prendre un coup de fouet, ou de souffrir la couronne ou les clous. Il a tout donné. J'ai livré mon dos à ceux qui m'ont frappé et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Isaïe 56. Ses mains et ses pieds aux clous, son côté à la lance, son visage aux gifles, son front aux épines, ses oreilles aux moqueries cruelles de ses ennemis, et son cœur a été abandonné par son père. Il a donné entièrement pour nous. Et Jésus veut que nous donnions à lui comme un holocauste. Jésus veut que nous, en retour, nous donnions à lui comme un holocauste. L'holocauste exprimait l'engagement envers Dieu. Dans une culture où le bétail était le gagne-pain, une personne ne se séparait pas facilement d'un bœuf, un bœuf, d'un bélier ou même un oiseau. C'était l'équivalent d'un homme de la classe ouvrière brûlant son chèque de paie d'un mois ou donnant sa voiture. L'application est que nous devons tout donner à Dieu. Nous devons tout donner à Dieu. Regardez, dans l'Ancien Testament, il y a un beau passage. Tournez avec moi 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. On va lire à partir de verset 19. Je trouvais que c'était... Ce passage dit ce que nous devrions faire. Il y a beaucoup d'enseignements dans l'Ancien Testament que parfois nous ignorons à apprendre. Donc, 1 Roi, chapitre 19, verset 19. Élie partit de là. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élisée, hein? Il parle d'Élisée. Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. C'est-à-dire, Élie, il est au point de partir, il jeta son manteau, c'est symbolique que Élisée, il va être son disciple pour faire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Voyez, il a fait un sacrifice, oui, mais avec quoi? Il était en train de labourer le champ avec le bœuf. Mais avec quoi il brûla ses sacrifices? Avec l'attelage. Donc, il a mis tout ce qu'il avait pour le sacrifice. Il a sacrifié tout ce qu'il avait pour le Seigneur. Nous devrions poser cette question maintenant. Avons-nous tout quitté pour Dieu? Avions-nous encore nos mains sur l'attelage de la vie? Le Seigneur disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Avons-nous gardé nos bœufs pour continuer notre vie en ignorant notre appel céleste? Il est facile de tout sacrifier à celui qui s'est sacrifié au Seigneur. Si nous avions tout donné au Seigneur, donner notre vie à Seigneur, ce n'est pas difficile de donner d'autres choses. Mais si nous gardions toute autre chose, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous sacrifier nous-mêmes à notre Dieu. Une histoire est racontée concernant un général. Le général approchait de l'une des batailles les plus féroces de sa campagne. Lui et ses troupes avaient traversé un pont alors qu'il approchait de la bataille quand l'un de ses officiers est venu à lui et lui a demandé s'il fallait ou non brûler le pont derrière eux. Il était de coutume de brûler le pont lorsqu'ils traversaient pour empêcher l'ennemi de glisser sur eux par derrière et pour empêcher les soldats de fuir la bataille quand il était difficile à gérer. Le grand général regarda vers la bataille, puis regarda en arrière d'où il venait, puis retourna vers la bataille, puis donna sa réponse, « Brûlez le pont, c'est soit la victoire, soit la mort. » C'est soit la victoire, soit la mort. L'apôtre Paul a écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir au corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12, 1. Chaque jour, je suis exposé à la mort, dit Paul. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, mon Seigneur. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Les holocaustes étaient des sacrifices quotidiens. Les holocaustes étaient des sacrifices quotidiens et étaient dont les sacrifices les plus courants dans leur ancien temple. Jésus s'est parfaitement soumis à Dieu au quotidien. Jésus a soumis à Dieu, ce n'est pas uniquement à la croix, dès sa naissance, pendant tous les 33 ans et demi, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Ce n'est pas uniquement quand il entrait dans le temple. Ce n'est pas uniquement le jour de dimanche. Ce n'est pas uniquement le jour de sabbat. Il était soumis à Dieu. Ce n'est pas quelque chose comme certaines personnes pensent qu'une fois que vous donnez votre vie à Dieu et qu'il n'y a rien que vous devriez faire après cela. Vous savez, quand nous lisons sur le premier disciple de Jésus, en apôtre, Actes des Apôtres, chapitre 2, nous voyons, il était chaque jour tous ensemble assidus au temple. Il rompait le pain dans les maisons, prenait leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Le service quotidien nous qualifie pour adorer quand nous venons devant Dieu. Le service quotidien nous qualifie pour adorer quand nous venons devant Dieu. 1 Pierre 14, 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, je pense que le frère a lu ce verset, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Oui, il y avait des aspersions de sang autour de l'autel. Il y avait des fumées de chair brûlée qui montaient vers le ciel. Tous les jours, matin et soir, jour et nuit. Nous allons considérer maintenant brièvement la loi de l'Holocauste. Commanda Aaron et à ses fils en disant, c'est ici la loi de l'Holocauste, c'est l'Holocauste, il sera sur le foyer, sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin. L'Holocauste fumait toute la nuit jusqu'au matin. Dans l'obscurité de la nuit, pendant le sommeil des fils d'Israël, on peut être pendant qu'ils murmuraient dans leur tente. Il y avait cette odeur agréable du sacrifice qui montait vers Dieu. Ne sommes-nous pas aussi présentement dans la nuit? La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Romains 13, 12. Ne fait-il pas nuit pendant l'absence du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne comme l'étoile brillante du matin? Il est heureux de savoir que durant cette longue nuit sombre, alors que les ruines de l'Église professante deviennent de plus en plus manifestes, et au milieu de tous les manquements du peuple de Dieu, l'odeur agréable du sacrifice de Christ est toujours aussi précieuse pour Dieu qu'au moment où il souffrait. Mais peut-être nous voyons les choses très sombres. Ça ne va pas. L'Église, ça ne va pas. Les chrétiens ne vont pas bien. Quand tout va mal, il faut toujours rappeler que ce sacrifice d'Holocauste, le fumé, il fume encore. Il fume encore. Matin et soir, jour et nuit, il faut penser au sacrifice de Christ qu'il a fait pour nous, qui est aussi efficace qu'il était dans l'époque des enfants d'Israël. Ne pouvons-nous pas en faire une application individuelle si l'on s'éloigne du Seigneur, si l'on retourne dans le monde, loin de lui, cette acceptation devant Dieu change-t-elle? Non, car l'odeur agréable du sacrifice de Christ devant Dieu est toujours la même et nous sommes agréés. Cette odeur agréable s'altère-t-elle jamais? Donc l'acceptation du croyant est toujours la même. Il y a un autre point précieux, c'est l'efficacité éternelle de la valeur constante de l'œuvre de Christ. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, on ne le laissera pas s'éteindre. Nous chantons « La croix reste debout ». La croix reste debout. Est-ce que nous avons cette image de sacrifice de Christ qui est efficace pour nous? On ne le laisserait pas s'éteindre. Qu'est-ce que cela implique? Quand nous serons dans la gloire de Dieu pendant les siècles sans fin de l'éternité, nous y serons toujours sur la même base que celle sur laquelle nous sommes maintenant agréés, à savoir la valeur de l'œuvre de Christ. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Galates. On va conclure avec ça. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la gloire de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi et je le suis pour le monde. Pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6, 14. Que le Seigneur nous aide à fixer nos regards sur la croix de Jésus-Christ seulement. Et penser à ce qu'il a fait sur la croix était déjà prédit dans le livre des commandements, dans les Pentateuques. La Bible entière parle et pointe vers Jésus-Christ, sur son plan de rédemption. Que le Seigneur nous aide à retrouver Jésus-Christ dans chaque page de l'Écriture. Que le Seigneur nous bénisse et nous guide et nous conduit par son esprit. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, voici nous sommes devant ta table, Seigneur, ce matin. Seigneur, pour s'en souvenir, le sacrifice que tu as fait à notre égard. Seigneur, tu es venu sans péché, tu as jamais connu le péché. Tu as commis aucun péché, Seigneur, mais tu es devenu péché pour nous. Seigneur, tu es devenu cet agneau sans tache. Et Seigneur, tu t'es sacrifié toi-même sur la croix de Calvaire à notre égard pour nous pardonner. Car la parole nous dit que sans l'aspersion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Seigneur, nous n'avons pas des autres moyens pour être sauvés. Seigneur, nous comprenons que le seul moyen pour être sauvé, c'était par le sang de Christ qui s'est donné pour nous entièrement, sans aucune réserve. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que Seigneur, nous te prions que tu nous aides à marcher digne de ce sang versé sur la croix, digne de ce salut que nous avons reçu gratuitement. À toi la gloire pour aujourd'hui et à jamais. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.